Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci pour tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui sur Radio Galaxie 98.5 FM, la radio du sud de Toulousain, votre radio locale, et je suis actuellement en relation téléphonique avec Thibaut Lanier.
Bonjour.
Bonjour Thibaut, qui est membre de l'association Les Sept Collines à Izot de l'Hôtel. Alors Thibaut Lanier, on est ensemble aujourd'hui parce que vous vous occupez d'un projet qui est la réhabilitation d'un monument très ancien, dites-nous tout.
Oui, tout à fait. C'est un monument à Izot de l'Hôtel, dans le Comminges, à côté d'Aspé, à quelques kilomètres d'Aspé. Et c'était un des châteaux principaux des comtes de Comminges au Moyen-Âge, puisqu'il avait un statut entre le XIIIe et le XVe siècle de chef-lieu de châtellenie, à la tête d'une vingtaine de seigneuries. Et on s'intéresse avec mon collègue archéologue également Arnaud Coiffé à ce site. On a mis vraiment en évidence des vestiges très importants. Surtout, alors le château c'est une chose, mais surtout le village qui est tout autour. Et donc ce village comptait pas loin d'une centaine de bâtiments. Et on a mis un certain temps à pouvoir au moins le délimiter et voir son étendue. Et tout ça grâce vraiment au soutien de l'association locale Les Sept Collines. Ça a été avant tout une rencontre humaine, une rencontre de gens, parce que les gens de l'association ont un cœur gros comme ça. Et nous, on est arrivés avec notre bagage, on va dire, plus scientifique. Et l'alchimie s'est créée autour de ce château. Et depuis maintenant, ça fait 11 ans. Et on continue toujours avec des beaux projets. Notre projet, surtout, c'était d'arriver à redonner forme un peu à ce site qui est très ruiné. Hein. C'est vraiment une ruine de château. C'est pas du tout vraiment en élévation. Et on peut pas rentrer dedans, le visiter comme un château dont on en a l'image dans d'autres endroits. C'est vraiment des ruines, mais c'est tout l'intérêt aussi, c'est que c'est resté dans son jus depuis la fin du Moyen-Âge. Ça a été abandonné à la fin du Moyen-Âge et progressivement c'est tombé en ruine. Ça a été recouvert par des éboulis et puis la terre, la végétation, etc. Et là, on essaye de faire ressurgir du sol ce site et notamment tout ce village qui est aggloméré autour du château.
Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi a-t-il été abandonné?
Eh bien, ça fait partie des questions auxquelles on aimerait bien arriver à trouver quelques réponses. Pour l'instant, ce que l'on sait, c'est que au départ, c'était un château de seigneurie locale, donc les seigneurs d'Izot, qui avaient quand même une certaine renommée. Hein. C'est des gens qui sont dans l'entourage des comtes de Comminges. À la fin du XIIe siècle, on a la première mention en 1190. Et on pense que le premier château, notamment le donjon, hein, qui reste, la tour maîtresse, eh bien, elle a été construite à cette époque à peu près. Et puis ensuite, c'est le comte de Comminges qui récupère le château. Et il en fait vraiment un château directement sous sa possession. Et là, on a une mention à partir du milieu du XIIIe siècle, puisqu'on sait que, on a une charte de coutume qui est rendue par le comte de Comminges. Donc, ce sont des us et coutumes et puis des droits qui sont donnés aux habitants. Et là, c'est directement le comte de Comminges qui le signe. Donc, on sait que le château dépend d'eux.
En particulier, ces droits et coutumes, c'était les droits de commerce et les choses comme ça.
Oui, tout ça. Ça régulait vraiment tout ce qui était le droit sur les forêts, l'organisation sociale, vraiment au sein de la communauté.
Et donc vous disiez, donc, c'est dès le XIIIe siècle et XIVe siècle, en fait, on avait des traces de cette habitation, et après, il y a eu les guerres cathares, etc., peut-être.
Oui, alors le catharisme, on est plutôt sur le XIIIe siècle, on a peu de renseignements, et il y a un impact qui est moindre qu'ailleurs, en tout cas, ça, au point de vue historique. Hein. Mais en tout cas, c'est plutôt au XIVe siècle une forte instabilité dans le comté de Comminges s'installe. L'heure de gloire vraiment du comté de Comminges était plutôt sur le XIIe siècle. XIIIe siècle, il y a une lente petite décrépitude qui se fait du comté de Comminges parce que le royaume de France s'installe notamment dans le comté de Toulouse et grignote progressivement le pouvoir des comtes de Comminges. Et puis donc on a les comtes de Comminges qui au XIVe siècle a des problèmes de succession. Il y a la guerre de Cent Ans qui s'installe avec vraiment une instabilité, une insécurité latente, qui, même si le comté continue de survivre, il n'est plus du tout à cette heure de gloire. Mais ça n'empêche pourtant, et c'est là que l'intérêt se porte sur ce site, les tentatives de réorganisation vraiment du comté de Comminges vont faire naître des sites tels que l'on connaît à Izot, avec un château, centre de pouvoir, centre aussi, un pôle pour sécuriser les gens, hein, pour le commerce, pour toute la vie des gens qui dépendent directement des comptes de Comminges. Et donc on va avoir le développement d'un bourg qui est assez conséquent. Hein. C'est vrai qu'une centaine de bâtiments autour d'un château, pour l'époque, c'était quand même très important. Il ne faut pas oublier qu'on est quand même dans un secteur très rural et qu'il n'y avait pas vraiment d'urbanité. On est loin de Toulouse, on n'est pas sur la notion de sphère urbaine. Donc voilà, on a quelque chose qui se développe au XIVe siècle alors que le comté de Comminges subit quand même un moment assez difficile. Et alors l'abandon du site, donc la question que vous me posiez, cet abandon, on se pose plusieurs questions, mais on suppose que c'est parce qu'il y a un transfert de pouvoir, c'est-à-dire que c'est plus Iso qui va être chef-lieu de Châtellenie, mais ça va être déplacé à Fronsac à la fin du XIVe, début du XVe siècle. Et on pense que ça contribue à l'abandon assez rapide du site. Mais du coup, c'est une chance aussi pour nous d'étudier un site qui est avec une occupation assez courte, qui est resté vraiment dans sa forme telle que c'était au Moyen-Âge, sans perturbation de l'époque moderne qui aurait pu changer la physionomie du site. Et donc là, on a vraiment quelque chose qui est pris dans la forêt et qu'on peut arriver à faire ressurgir du passé, notamment sur sa vie quotidienne, hein, la vie quotidienne des habitants, l'organisation du village, la répartition sociale au sein du village, c'est ce qu'on souhaite arriver à trouver. Et puis après, c'est aussi tout un travail avec l'association et la mairie. Hein, faut pas oublier, la mairie participe beaucoup pour arriver à valoriser le site et à rendre le fruit de notre travail, la possibilité de le divulguer auprès du plus grand public. C'est vraiment notre objectif premier. C'est pas faire des fouilles pour juste la recherche, mais c'est pour la diffusion aussi auprès des gens locaux, mais aussi des visiteurs extérieurs.
Ce qui est intéressant, ce que vous disiez, c'est qu'il reste dans son jus. Et donc, on peut retrouver des choses en faisant des fouilles qui ont été recouvertes par le temps. Mais souvent aussi, ils ont été dépouillés par les villageois pour construire les bâtisses du village.
Oui, tout à fait. Là, il ne faut pas sous-estimer non plus ce phénomène sur le site. Les pierres de taille, les éléments majeurs qui pouvaient servir pour construire le village en contrebas, ça a été vraiment le cas. Quand on se promène dans le village en bas, on voit bien hein, les pierres d'angle, des maisons, on devine que ça vient de là-haut, du château, on retrouve les mêmes types de pierres, le même type de taille. Il suffit de regarder le donjon, hein. Le donjon, bon, il est effondré en partie, mais les pierres d'angle ont toutes été récupérées, sauf celles qui sont prises dans la démolition, c'est-à-dire qu'une partie du donjon s'est effondrée, et avec c'est vraiment dans la démolition et donc sous une certaine épaisseur de pierre, là, il y a des choses qui sont déjà un peu plus protégées. Mais sinon, après, ce qui nous intéresse, nous, archéologues, c'est de comprendre la succession des couches qu'il y a dans le sous-sol pour voir les étapes, en fait, de l'occupation, de la vie, vraiment, d'une maison, d'un espace. Et en fait, c'est cette succession qui nous renseigne. Donc, et le mobilier que l'on trouve dedans. Donc, ce mobilier, il est très intéressant à plusieurs égards. Alors, c'est vrai que bon, on imagine du mobilier métallique, doré, tout ça. Alors, on en trouve très peu, on en trouve très peu. Ce qui nous intéresse, c'est essentiellement le mobilier céramique et les autres éléments qui permettent de dater les choses. C'est-à-dire que si on apporte des dates sur des couches, après, on peut arriver à comprendre l'articulation et l'évolution des espaces que l'on fouille. C'est ça, en fait, qui nous intéresse en premier lieu. C'est même, on peut dire, l'obsession de l'archéologue. Hein. C'est ça, son leitmotiv. On cherche à comprendre et à mettre des dates sur les événements.
À refaire le film, en fait, du château à travers l'histoire, pratiquement.
Tout à fait.
Donc, depuis la seconde moitié du XXe siècle, en fait, le château a repris de sa valeur, entre guillemets, où plusieurs associations se sont succédées pour pouvoir le remettre à jour.
Oui.
Il y a eu d'abord une première association, d'accord, et maintenant, c'est l'association des Sept Collines. Pourquoi Sept Collines ?
Alors ça, il faudrait le poser la question aux personnes de l'association. Il y a plusieurs explications. Alors ça fait référence notamment au concept antique où on implantait une cité entourée généralement de sept collines. C'était un repère pour fonder les cités antiques et notamment les sept collines de Rome. Hein, ça fait référence à Rome. Mais là, je pense que c'est parce qu'on est dans un endroit où il y a vraiment des monts vraiment tout autour. Mais là, ce serait mieux de le demander aux personnes de l'association.
À la présidente Josette David-Mougel. Alors, vous êtes avec votre collègue, vous disiez tout à l'heure, archéologue, vous êtes chercheur, et actuellement, vous faites des fouilles régulièrement tous les ans sur ce site-là. C'est des fouilles qui ont lieu l'été, l'hiver, à quel moment ?
Oui, alors, les recherches ont commencé depuis 2011, mais on a fait des fouilles depuis 2017. Alors, on fait appel à des bénévoles. Ces bénévoles, généralement, la majorité, grande majorité, ce sont des étudiants qui viennent se former, qui profitent justement de ce type de chantier pour se faire la main, comme on dit. Et puis après, il y a aussi les bénévoles de l'association locale, donc les Sept Collines. Et puis après, on a aussi d'autres personnes qui peuvent se greffer et qui seraient passionnées et qui consacrent du temps à venir avec nous sur la fouille. Et du coup, c'est intéressant parce que c'est une vie en collectif pendant un certain temps. Et là, ça, en fait, on le fait l'été, généralement. C'est généralement au mois de juin que l'on fait le chantier. Jusque-là, ce sont des chantiers qui étaient de 3 semaines, parce qu'on n'avait pas beaucoup de bénévoles qui venaient, étant donné qu'on faisait des sondages. On cherchait à tester le potentiel du site. Maintenant, on va rentrer dans une phase plus importante, à savoir qu'on a défini une problématique et on va vraiment fouiller des surfaces plus grandes pour comprendre l'évolution vraiment des espaces, des bâtiments. Si l'année dernière, on était encore une dizaine de fouilleurs, cette année, on va monter à 25. Et on fouille 4 semaines, donc c'est tout le mois de juin jusqu'à début juillet, donc c'est du 6 juin jusqu'au 3 juillet. On a encore quelques places pour les personnes qui souhaitent venir participer, donc il ne faut pas hésiter à nous contacter. Le contact, c'est iso.archeologie@mailo.com, ou sinon m'appeler directement 06 25 14 50 41. Donc je suis Thibault Lanier. Après, on a plein d'événements qui vont vraiment ponctuer la fouille cette année, à savoir que le premier week-end, le 12 juin, on va faire une journée médiévale où une troupe de pamiers va venir faire des démonstrations d'armes telles qu'on peut les envisager au XIVe siècle. Il y aura aussi un atelier de forge, il y aura également des choses autour du tissage, de l'enluminure, il y aura un groupe de musique, et donc les gens qui viennent sont invités à venir costumer, et ça se passera à ISO.
Dans vos rêves les plus fous, ce serait quoi le résultat de ces fouilles du château d'ISO ?
Ah, dans mes rêves les plus fous, ah, c'est une question que je ne me suis pas posée. En fait, ce serait vraiment d'avoir quelque chose qui, à la fois, nous montre l'originalité de ce que l'on a dans le secteur, en termes d'occupation humaine pour le Moyen-Âge, et à la fois qui donne une explication plus globale à l'échelle de la région, et qui vraiment apporterait des éléments de compréhension sur le Moyen-Âge au sens large. Voilà, c'est ça, ça ce serait mon... Mais alors, c'est une vision d'archéologue. Hein. Après, je pense qu'on posera la question aux personnes de l'association. Je crois que les rêves les plus fous, ce serait d'arriver à rendre le site pas comme il était à l'époque, mais vraiment que ce site puisse retrouver une certaine forme de rayonnement. Alors là, ce serait à l'échelle touristique, pour arriver à le rendre visitable et surtout qu'on ait énormément d'informations sur la vie des gens à l'époque, la vie quotidienne, sur... presque arriver à retrouver les senteurs, les bruits tels que l'on les avait à l'époque. Je pense que c'est le souhait un petit peu de chacun.
Je suis avec Thibault Lanier et avec son compagnon Arnaud Coiffé qui tous les deux organisent des fouilles programmées du 6 juin au 3 juillet 2022 au Castet d'Iso, à Iso de l'Hôtel, dans le sud, tout à fait le sud-sud de la Haute-Garonne, et qui font un appel aux bénévoles. Il reste quelques places, disait Thibault tout à l'heure. Si vous êtes intéressé à devenir fouilleur, futur archéologue, étudiant en histoire ou en étudiant en art, que vous avez 18 ans minimum, avec une bonne condition physique, parce que quand même, on se lève de bonne heure, et puis il faut porter des choses, il faut porter des sauts, etc., etc., être toujours accroupi, c'est bien ça ?
Oui, tout à fait. Oui, oui, là, il faut vraiment une excellente condition physique. Parce que les fouilles sur les châteaux sont parmi les contextes en archéologie les plus difficiles qui soient. Parce que bah, déjà, il faut monter. Donc le matin, c'est une petite mise en jambe avec 20 minutes de marche, d'approche. Et puis après, c'est des grosses chaleurs. Souvent, on est quand même très exposé au soleil. Le mois de juin, ça tape, hein. Le soleil est quand même très fort. Et puis après, c'est très physique parce que aussi, on n'arrête pas de charrier, de transporter de la matière. Donc, on alterne des phases de fouilles, on va dire fines, à la truelle, etc. Alors, le pinceau, c'est rare. Le pinceau, c'est plutôt pour fouiller des sépultures, donc des squelettes. Là, on est vraiment sur des fouilles moins fines. Mais on alterne le jeu de la truelle avec souvent le jeu de la pelle et de la pioche, faut dire ce qui est. Donc ça peut s'apparenter à quelque chose d'assez difficile. Donc si les gens souhaitent venir, faut vraiment avoir une bonne condition. Et puis surtout aussi, il faut avoir le vaccin antitétanique, ça c'est très important. Et enfin, si vous souhaitez venir, nous on donnera la priorité aux personnes qui souhaitent rester le plus longtemps, donc au maximum les 4 semaines. Voilà, si vous n'avez qu'une semaine à consacrer, nous, on privilégiera vraiment les personnes qui veulent rester le plus longtemps que ça.
Vous, Thibault, qu'est-ce qui vous a fait découvrir ce lieu? Qu'est-ce qui vous a fait participer à ces projets?
J'étais étudiant, en fait. Je suis arrivé en Ariège pour faire des études. Et puis, je me suis implanté en Ariège. J'ai fait mes études, hein, mon sujet de recherche sur la partie ouest de l'Ariège, donc le Couserans. Et j'ai fait un inventaire des fortifications du Moyen-Âge. De là, je me suis greffé un groupement de chercheurs, un programme collectif de recherche qui a mené pendant 15 ans des recherches, des fouilles et autres sur les châteaux. J'ai travaillé avec les collectivités aussi en Couserans. Et puis, progressivement, en fait, j'ai commencé à élargir mon champ d'études. La rencontre avec Arnaud Coiffé, qui lui avait fait aussi ses études sur le Comminges, m'a dit « Mais viens voir, j'ai un site qui est très très chouette ». Effectivement, voilà, depuis, on se sépare plus avec Arnaud et on a presque élu domicile, enfin, en tout cas, au moins dans le cœur, à Izeau de l'Hôtel.
Et vous faites des fouilles exclusivement sur ce site? Vous avez d'autres lieux de recherche?
Non, moi, j'ai travaillé, en fait, pendant 10 ans dans l'archéologie préventive. J'étais responsable d'opération et je dirigeais des fouilles à peu près dans, on va dire, le grand tiers sud-ouest de la France. Donc, j'ai fait ça pendant 10 ans. Là, c'est vraiment de l'archéologie de sauvetage. Ça m'a vraiment permis de prendre beaucoup d'expérience dans tous les contextes, donc château, mais contexte urbain, contexte rural, sur de l'architecture civile, l'architecture aussi religieuse. Donc vraiment, ça a été sur plein de choses. Et puis, en fait, j'ai souhaité devenir indépendant et travailler à mon compte. L'essentiel de mon travail se concentre sur le château d'Izeau. Et puis à côté, je fais aussi des petites études complémentaires à la demande de personnes où on vient me chercher.
On est en relation avec Thibault Lanier, c'est le Castel d'Izeau à Izeau de l'Hôtel. Un ancien château, comme vous le disiez, c'est de l'archéologie de sauvetage. Donc c'est un château qui s'est effondré, qu'il faut redécouvrir. Thibault, merci beaucoup pour cette présentation.
Merci à vous.
Et bon courage surtout pour porter les sauts, monter sur la colline et fouiller tout ça.
Merci, et puis très heureux de pouvoir éventuellement recevoir les personnes qui souhaitent visiter le site pendant les fouilles. Les personnes pourront trouver des renseignements sur les journées portes ouvertes, parce qu'il y aura plusieurs journées portes ouvertes pour faire visiter un petit peu les lieux, comment le chantier se déroule et les premiers résultats. Merci à vous.
Dernier petit message pour ceux qui veulent plus d'informations sur ce site. Vous pouvez aller sur le site internet du château, www.chateauisodelhotel.fr, et vous avez les photos, vous avez les plans, vous avez l'histoire et tous les renseignements nécessaires pour en savoir plus et voir comment ça se passe. Thibault, merci, à bientôt.
Merci, au revoir.